La revanche du passé, chapitre 7. Ce qu'il y avait de provoquant dans la rancune d'Élisabeth sembla d'abord se détendre dans l'asile champêtre, encore désert à cette époque de l'année où le docteur l'avait envoyé. La féerie du printemps sous le grand ciel libre, les courses à travers les vastes espaces verts où on ne rencontrait personne, la vie à deux, à l'abri de l'éternelle présence de Gertrude, adoucissait la brûlure intérieure, sans cesse irritée à la ville par les petits faits quotidiens. Elle suivait sa mère sans résistance dans de longues pérégrinations à travers champs. La nouveauté des lieux créait entre elles des sujets d'entretien assez étrangers à leurs préoccupations intimes pour qu'elles puissent les aborder presque librement. Élisabeth n'avait jamais vu la campagne, et les travaux saints de la terre, le va-et-vient des paysans avec leurs outils, les lourds attelages traînant le long des routes sillonnées d'ornières, l'engrais fumant, toutes les habitudes différentes qu'il fallait prendre pour s'adapter à une existence entièrement nouvelle, toutes ces choses inconnues avaient un attrait si neuf que la jeune fille semblait retrouver peu à peu l'équilibre mental que l'aveu de sa mère avait si fortement ébranlé. Toute sa capacité d'attention semblait prise par l'intérêt des choses qui se passaient autour d'elle. Elle suivait d'un œil ouvert toutes les péripéties d'existence réglées dont elle n'avait pas soupçonné la rude simplicité, le courage, l'intrépide et silencieuse patience. Quelquefois même, quand elle était bien sûre que sa mère ne la voyait pas, elle sortait de sa tenace réserve et s'enhardissait à faire, sur la culture de la terre, la crue du blé, la succession des travaux champêtres, des questions timides qui l'étonnaient elle-même. À une demi-heure de l'auberge où Madame Georges et Élisabeth étaient descendues, il y avait un étang alimenté par une source souterraine. C'était une large mare d'eau limpide, à la surface dormante, où trois peupliers sveltes se miraient du matin au soir. Au soleil couchant, cette eau verte transparente prenait des tons vifs. Elle se teignait de rouge, de violet, d'orange cru, ou, dans les jours brumeux, elle se couvrait d'une couleur neutre, d'opale à peine rosée. Et jusqu'à ce que le soleil eût disparu et eût rendu à l'eau sa limpidité verte, plus sombre, presque noire, le feuillage naissant et tremblant des peupliers frémissait sur cette nappe d'eau illuminée, éblouissante. Élisabeth et sa mère venaient très souvent s'asseoir sur un banc au pied des trois peupliers pour assister à ce court incendie de l'eau. Puis, quand le crépuscule descendait, elles rentraient lentement, s'arrêtant aux détails du chemin, regardant la charrue fendre la terre molle et échangeant tous les jours quelques mots sur le progrès déjà saisissable du printemps. Et Madame Georges se laissait prendre à l'espérance qu'Élisabeth, remise du choc de la première heure, retrouverait au fond de son cœur d'enfant la tendresse filiale qu'une violente secousse avait pu ébranler, mais non détruire. Il fallait laisser l'œuvre d'apaisement se faire, sans intervenir, ne rien dire, ne rien demander. Attendre. Le troisième dimanche qui suivit l'arrivée des dames Georges à X, Élisabeth, voyant le ciel brumeux s'entr'ouvrir tout à coup et un rayon de soleil glisser dans la chambre, s'approcha de la fenêtre, d'où, à perte de vue, jusqu'à la lisière sèche et noire de lointaines forêts, on voyait s'étendre la campagne plate avec ses gros bouquets de cerisiers à peine bourgeonnants. Elle resta un moment immobile, puis elle dit tout à coup, les dents serrées, « Le neveu de Madame Musso est là !» Elle revoyait nettement l'admirative attention d'André fixée sur sa mère lors de la courte visite chez Madame Musso. Elle se retourna enfin et elle ajouta, « C'est pour toi qu'il vient !» Sans répondre, comme si elle ne voyait rien à relever dans une remarque banale, insignifiante, Madame Georges se leva, prit son chapeau, noua à la hâte les brides de crêpe et s'en alla errer dehors à travers la campagne déserte. Elle ne rentra qu'au soleil couchant, les paupières meurtries, cerclées d'une ligne noire. Elle alla s'asseoir au fond de la chambre, où elle resta muette, le regard vague flottant distraitement devant elle. Alors, de l'ancienne tendresse mutilée et toujours silencieuse, un éclair de pitié jaillit tout à coup. Confuse, repentante, Élisabeth s'approcha de sa mère. « Maman, je... » D'un bond, la mère fut debout, et saisissant dans ses mains la tête pâle, tout de suite récalcitrante, elle murmura. « Non, c'est impossible, n'est-ce pas? Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne pourrais pas. » L'élan d'Élisabeth s'éteignit brusquement. Son absurde insinuation redevint une question possible à poser entre elle et sa mère. Elle reprit une consistance. À partir de ce jour, bien que la présence d'André à X fût devenue fréquente, il ne fut plus fait aucune allusion à ses allées et venues. En voyant le jeune homme rôder dans les allées désertes, les yeux toujours tournés vers leurs fenêtres, Madame Georges, cherchant un sens à ce rôle sans couleur, se disait inquiète « Ce jeune homme a un but, mais lequel ?» Et elle regardait tristement le visage d'Élisabeth, n'y trouvant rien qui pût exciter l'attention dont elle la sentait l'objet. Elle voyait s'ouvrir sous les pas de son enfant une pente douce aux perspectives obscures, et elle ne découvrait aucun moyen possible de l'arrêter sur ce chemin engageant. Tout ce qu'elle aurait pu dire à Élisabeth sonnait dans sa bouche comme un signal de rébellion. Élisabeth n'éprouvait plus, en effet, à la vue d'André, le spasme d'indignation qui l'avait étranglé la première fois qu'elle l'avait aperçu, étendu sur l'herbe, en face de leur fenêtre. Où qu'elle allât, elle trouvait toujours le jeune homme sous ses pas. Et peu à peu, l'irritation qui la bouleversait lorsqu'elle voyait la splendide maturité de sa mère attirer à elle toute l'attention du dehors, faisait place à une sensation nouvelle, inconnue, très douce. Assise à côté de la fenêtre, elle guettait tous les dimanches, immobile dans sa faction, la venue du jeune homme. Et lorsqu'elle l'avait vu poindre sur la route, elle se levait, devenait remuante, gaie, et presque toujours proposait à sa mère une sortie. En dépit des efforts de Madame Georges pour le tenir à distance, André finit par briser la barrière tenace qu'elle opposait à ses avances. Il arriva un jour, porteur d'un message verbal de sa tante. Madame Musso s'informait de la santé d'Élisabeth. Elle désirait savoir aussi l'impression des dames Georges sur X, demander quelques détails sur leur installation. Enfin, elle offrait ses services si ces dames avaient envie de quelque envoi de la ville. Madame Georges devina très bien, sous le prétexte transparent, la volonté arrêtée de s'introduire chez elle. Elle remercia froidement, sans engager le jeune homme à revenir. Mais à partir de ce moment, tous les dimanches, il trouvait une raison plausible de les aborder. Tantôt il apportait de la ville des fleurs de serre pour orner leur chambre pendant la semaine, tantôt quelques livres à feuilleter, qu'il leur laissait jusqu'au dimanche suivant. Sans avoir l'air de s'apercevoir de l'accueil glacé de Madame Georges, il s'occupait presque exclusivement d'Élisabeth, et très vite, comme si la présence de sa mère engendrait chez la jeune fille quelque chose de fiévreux et d'excessif, une intimité s'établit entre les jeunes gens. Élisabeth avait de brusques accès de gaieté. Elle riait d'un rire nouveau, bruyant, et ce rire, inconnu jusque-là, blessait le cœur de la mère comme une note fausse, dure, forcée. Cependant, elle laissait s'accomplir la métamorphose de sa fille sans oser intervenir. À quoi servirait une opposition venant de sa part? À transformer la révolte sourde d'Élisabeth en lutte ouverte? Non. Toutes ces forces de résistance devaient être réservées pour l'heure de crise certaine qu'elle prévoyait, qu'elle voyait s'approcher tous les jours. Employer son énergie avant l'heure serait gaspiller en vaines escarmouches une vigueur qui serait à peine suffisante tout entière pour vaincre l'obstination d'Élisabeth, le jour où leurs deux volontés se dresseraient vis-à-vis l'une de l'autre, comme des adversaires résolus à se heurter de front, à lutter sans merci jusqu'à la mort. La campagne se développait rapidement. Quelques ondées chaudes avaient achevé de réveiller la terre, et toutes les fleurs du printemps s'ouvraient à la fois. Violettes et primevères sauvages dans les prairies aux verts éclatants, autour des rameaux encore sans feuilles des arbres fruitiers, toutes les délicates floraisons d'avril. Tentées par le grand soleil, Madame Georges et Élisabeth passaient une grande partie de leur journée dehors. Tantôt assises à côté l'une de l'autre, occupées à quelque ouvrage, tantôt s'en allant à l'aventure par les chemins, tantôt encore suivant la route qui conduisait à l'étang où les trois peupliers, plus feuillés, jetaient à présent une ombre plus dense et moins frissonnante. C'était là qu'elles retrouvaient presque toujours André le dimanche. Ils s'asseyaient tous les trois sur le banc au pied des arbres, et la mère restait silencieuse à côté de sa fille. Quelquefois, les jeunes gens la quittaient pour faire le tour de cette eau immobile, s'arrêtant à tout moment, trouvant partout des sujets de causerie, de gaieté, de cette gaieté qui, sur les lèvres d'Élisabeth, sonnait toujours creuse et forcée. Un dimanche où Élisabeth était restée plus taciturne encore que d'habitude, elle quitta tout à coup la place qu'elle occupait près de la fenêtre et, sans prévenir sa mère de ses intentions, elle sortit d'un pas décidé. Madame Georges courut à la fenêtre, et elle vit disparaître sous les ombrages la mince silhouette. Elle hésita quelques secondes, puis, à la hâte, elle la suivit. Quelque humiliation que pût lui attirer son intervention, cette fois il fallait agir. Il fallait enrayer tout de suite cette folle intimité dont Élisabeth ignorait tous les dangers. Mai était venu, et ce jour-là, le grand soleil jetait sur la plaine féconde une lumière éblouissante. Les gros cerisiers faisaient éclater leurs derniers boutons, et de la terre échauffée montaient des bouffées d'odeurs saines, des effluves pénétrants. Une impulsion vers la paix et l'espérance s'échappait si forte de la fantasmagorie éphémère du printemps que le cœur troublé de la mère se laissait prendre. Il se laissait prendre au réveil de la vitalité cachée de la terre, qui associe tous les êtres à sa gloire d'un jour. En marchant, elle foulait des herbes odorantes et de petites fleurs fines aux couleurs pâles. Au-dessus de sa tête, les cerisiers déployaient leurs dômes blancs, et elle s'en allait de plus en plus rassurée, presque légère, buvant l'éternelle illusion des choses, portée par l'ivresse ensorcelante et communicative que verse sur le monde le grand soleil vivifiant de mai. Elle se disait qu'Élisabeth, prise elle aussi par cette griserie de fleurs, de parfums et de lumières, était allée s'asseoir dans quelque bosquet aux environs. C'était si nouveau pour elle, ce séjour dans la libre nature. D'un moment à l'autre, ici ou là, elle apercevrait la robe noire qui tant de fois déjà lui avait révélé la retraite de sa fille. Lorsque, inquiète de ses disparitions, elle la suivait sans la rejoindre. Elle fouilla du regard tous les abris où Élisabeth, les jours où la prenait cette soif de solitude, allait cacher ses rêveries. Elle les passa tous en revue, prudemment, sans trahir sa surveillance. Elle suivit l'un après l'autre jusqu'au bout les chemins préférés de la jeune fille. Elle erra partout, l'œil ouvert. Mais ses recherches restèrent sans résultat. Et tout à coup, l'inquiétude la mordit de nouveau au milieu de sa fausse sécurité. Brusquement, la mère certitude de tous les jours reprenait possession de sa pensée et en chassait les menteuses joies du spectacle extérieur. Bien qu'elle n'eût pas aperçu André, il était là, elle n'en doutait plus. C'était pour le rejoindre qu'Élisabeth était sortie si délibérément tout à l'heure, sans même lui jeter un mot d'explication. Ils étaient quelque part ensemble, mais où ? Élisabeth avait rencontré le jeune homme très près de la maison, et tout de suite, en apercevant sa mère qui semblait la chercher, elle avait cédé à la prière d'André. Elle avait pris avec lui un chemin plus long à travers les prés, et ils avaient gagné la maison par une cour de derrière où s'ébattait en liberté un monde de volatiles bavards piaillant au soleil. Ils se trouvaient seuls pour la première fois dans la chambre d'auberge où Madame Georges et Élisabeth recevaient les visites d'André. Un peu embarrassée par ce tête-à-tête inaccoutumé, que sa familiarité vis-à-vis du jeune homme en présence de sa mère rendait délicat, Élisabeth s'approcha de la fenêtre. Levant sa main maigre, elle indiqua d'un geste les grosses têtes fleuries des cerisiers et dit « Ces cerisiers, je n'ai jamais vu autant de fleurs. Ils sont vraiment magnifiques. » Il y avait dans sa voix d'ordinaire nette et presque dure des sons étouffés que la banalité de sa remarque n'expliquait pas. Quelle fièvre courait tout à coup dans son sang pauvre pour qu'il vînt ainsi battre ses tempes à flots et que son cœur semblât se vider jusqu'au fond. À travers la neige des fleurs, elle voyait distinctement une secrète espérance, nourrie dans l'angoisse du doute, s'approcher, toucher à la minute décisive qui allait en faire tout de suite une réalité, une joyeuse certitude, ou lui enlever peut-être à jamais la possibilité de briser le joug de son humiliante destinée. Elle restait immobile à la même place, sans oser se retourner. Un mot indifférent, sorti des lèvres d'André, suffirait à faire évanouir le mirage attirant dont elle avait vécu pendant toutes ces dernières semaines. Et elle tremblait de tous ses membres, attendant l'arrêt prochain qui allait la libérer d'un pesant héritage de honte ou l'arriver plus étroitement à sa chaîne. Tout à coup, tout près d'elle, à son oreille, une voix qu'elle connaissait bien, mais qui semblait changée, plus musicale, répéta très bas ses propres paroles. « Ces cerisiers, n'est-ce pas ? Oui, toutes ces fleurs, c'est vraiment magnifique. » Magnifique. En même temps, Élisabeth sentit un souffle chaud lui caresser la joue. Elle recula brusquement. Comme une flèche aiguë, empoisonnée, la pensée de sa mère venait de lui traverser l'esprit. Être un passe-temps, un jouet, une amusette d'une heure. L'ombre de l'opprobre maternel la couvrit tout entière, balayant tout le reste. Elle s'échappa des mains hardies qui cherchaient à la saisir, et, les lèvres blanches, elle murmura « Non, non !» André recula, et il demeura quelques secondes en face d'elle, indécis, très surpris. Il avait cru la jeune fille conquise à fond, prête, sur un signe à le suivre partout où il lui plairait de la conduire. La singulière résistance, l'effroi inattendu d'Élisabeth, éveillé pour la première fois en lui, mêlé à une fugitive inquiétude de voir échouer ses projets, un désir immédiat de la prendre contre lui, de l'obtenir sur-le-champ, de son propre gré, librement, avant que la mère, toujours aux aguets, reparût. Il se rapprocha d'elle vivement, et sans la toucher cette fois, il murmura d'un accent rapide, sincère, pressant, « Ma femme, Élisabeth, ma petite femme à moi, vous ne voulez donc pas ?» Le visage légèrement coloré se tourna aussitôt vers le sien, consentant, presque avide. Il comprit l'appel, se pencha, et rapidement il chercha les lèvres. En ce moment, la porte s'ouvrit et Madame Georges entra. Un instant, en voyant les deux jeunes gens ensemble, Elle resta sur le seuil, silencieuse. Puis elle dit avec un tremblement dans la voix, « Je suis sortie tout de suite après toi, Élisabeth. Je vous ai cherchée partout. » Et elle vit très bien la rougeur inusitée qui brûlait les joues d'Élisabeth. Elle la vit disparaître lentement. Elle alla s'asseoir près de la fenêtre et elle rêva en face de l'éclosion superbe du printemps. Mais la nature parée n'avait plus de voix pour elle. Elle ne lui disait plus rien. Sur le fond blanc du ciel, son profil droit, très fin, coupait un dessin ferme et pur. Toutes les flétrissures récentes du visage se dérobaient dans l'ombre flatteuse du contre-jour. Ses mains abandonnées s'étaient croisées sur ses genoux, très blanches sur l'étoffe noire de la robe. André la regarda un moment, sans parler. Puis, se penchant vers Élisabeth, de façon à n'être entendu que d'elle, il murmura « Votre mère est encore très belle. Sapristi, que cette femme est encore belle !» Quelque chose d'amer circula dans les veines d'Élisabeth. Elle jeta sur sa mère un coup d'œil rapide, mais elle ne répondit rien. Quelques heures plus tard, dans le court trajet en chemin de fer qui le ramenait à la ville, André regardait filer la campagne fleurie avec une sensation de joie mêlée d'étonnement. Il n'avait pas cru faire ce jour-là tant de chemin, ni prévu les impressions vives qu'il avait éprouvées pendant son rapide entretien avec Élisabeth. L'image d'Élisabeth, avec sa pâleur de vierge passionnée, se mêlait au gros bouquet blanc des cerisiers, qui, jusqu'à la lisière encore morne et noire des bois, tachait le vert frais, tout neuf, des prairies. Une joie débordante le possédait, et il avait une envie folle de chanter et de rire tout haut. Il ne voyait plus du tout le visage maigrelé, chétif et souffreteux de la jeune fille. Il pensait à l'avenir avec une détente de tout son être, surpris d'avoir été si récalcitrant au conseil de sa tante Agathe, lorsqu'elle l'initiait aux circonstances obscures qui enveloppaient pour elle la naissance d'Élisabeth. Il regardait au large du côté de la vie, avec un renouveau de sève vivace. Élisabeth ! C'était enfin la possibilité de ne plus gratter le sol pour y chercher au jour le jour une chétive subsistance. C'était une porte ouverte, toute grande, sur des perspectives larges, spacieuses, pleines d'air et de soleil. Et il songea tout à coup à son oncle, à cet homme enchaîné à une occupation croupissante, qui lui avait jadis jeté à la figure une insulte brutale. « Des mauvaises idées, moi, parbleu !» Très joyeux, il se mit à siffloter entre ses dents des notes gaies, des motifs d'opéra sans suite, emmagasinés au fond de sa mémoire. Bientôt, à la campagne, succédèrent les bâtisses éparses des abords de la ville. Constructions bâtardes, chantiers sordides avec leurs différents outillages, vastes dépôts encombrés de marchandises brutes, tous les réceptacles divers exilés dans la banlieue avec leur désordre poussiéreux et triste. 10 minutes plus tard, André sautait sur le quai de la gare. Mais dès qu'il eut touché du pied le sol enfiévré de la grande ville, le rêve léger qu'il avait vécu en passant comme le vent au milieu des cerisiers perdit son attirance. Il revit, telle qu'elle était, la pâleur mate d'Élisabeth, la sécheresse des longs membres juvéniles, à peine déguisés sous l'ampleur des plaies. La pitié condescendante qu'il avait éprouvée pour elle lors de leur première entrevue chez sa tante lui revenait déjà, mais lointaine et très refroidie, comme s'il en eût laissé le foyer derrière lui, là-bas, sous la blancheur éphémère des cerisiers. Il hâta le pas, songeur, avec la sensation désagréable de ce qu'il y avait d'incomplet dans sa récente joie, de ce qu'elle exigerait de lui de patience, de support, d'ennuyeuse simagrée. se dégageant avec impatience de la cohue que ce beau jour de dimanche faisait affluer partout, il se dirigea vers la sortie. Au moment où il allait tourner l'angle du bâtiment, il aperçut, perdu sous un ample burnous noir, une forme féminine bien connue. Il s'approcha d'elle et posa la main sur l'épaule tombante. Cette rencontre le surprenait agréablement. Elle n'aurait pu être plus opportune. « Tante Agathe, dit-il, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce moi que vous attendez par hasard ?»« T'attendre ? » dit-elle un peu amère. « Est-ce que je sais jamais où tu es et ce que tu fais à présent ?» Il laissa tomber le reproche sans le relever. Elle reprit. « C'est ton oncle qui part pour X. L'autre jour, sa crise l'a pris pendant son travail. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont cru qu'il étouffait. Je l'accompagne à la gare. Avec son asthme, il ne peut rien faire seul. » Elle ajouta. « 2 mois complets de congés et tous les frais payés, le voyage compris. Une chance inouïe, qu'en dis-tu ?» En ce moment, un coup de sifflet strident vibra. Le train secoua sa longue queue souple et toutes les voitures défilèrent lentement sans que la figure fatiguée de l'asthmatique se montrât. Quand le train est tout à fait disparu du côté de la campagne, la tante et le neveu se dirigèrent vers la sortie et ils marchèrent un moment à côté l'un de l'autre sans parler. « Est-ce que tu ne viendras pas me voir quelquefois, André, maintenant que je suis seule ? Autrefois... vous oubliez, dit le jeune homme vexé, que grâce à mon oncle, je suis tenu par le pied comme un forçat. Travaillez, travaillez. Pendant ce temps, lui se repose, il prend du bon temps, il va faire des villégiatures. Heureusement que tout cela va finir. » Et indiquant d'un geste de la main derrière son épaule la gare, et plus loin, très loin, les cerisiers, il ajouta. « J'ai vu Élisabeth, là-bas. » Et très brièvement, dissimulant sa passagère ivresse, il raconta sa rapide entrevue avec la jeune fille jusqu'à la rentrée intempestive de la mer. Il ne se souciait pas, du reste, de faire lui-même des ouvertures à Madame Georges. Elle le traitait toujours avec une sécheresse, une hauteur tout à fait déplacée. Il conclut avec un petit rire bref. « À présent, c'est à vous, tante Agathe, d'arranger les choses. Cela vous regarde. Du diable si j'aurais jamais pensé à Élisabeth sans vous. Ce qui est embêtant, c'est de trouver mon oncle partout sur le chemin. On dirait vraiment qu'il fait exprès de gêner tous mes mouvements. » Il y eut un silence. Jamais madame Musso n'entendait André mentionner son oncle sans éprouver, pour l'étroite médiocrité acceptée passivement par son mari, un même mouvement d'impatience hostile. Le dédain d'André ne la laissait jamais indifférente, car elle y devinait clairement un blâme condescendant pour l'insigne folie qu'elle avait commise, dans les jours de sa jeunesse, d'attacher son sort à un être mesquin, sans aucune ambition d'avenir, et rivé à des idées qui sentaient la moisissure. L'ironie du jeune homme la transperçait de dards cruels. Ce jour-là, cependant, la nouvelle apportée par André la remplissait de trop de joie pour la laisser longtemps s'attarder à des considérations rétrospectives. En développant devant André ses projets, elle avait nourri peu d'espoir de les voir aboutir. Il lui semblait impossible qu'André consentît jamais à entrer dans une combinaison où il devait s'engager d'une façon si formelle. Jamais elle ne l'aurait cru assez raisonnable pour accepter l'idée d'une alliance avec cette grande et pâle Élisabeth. La réussite si prompte de son plan la prenait par surprise, l'irradiait. « Ne t'inquiète de rien, dit-elle enfin. Je me charge de parler à la mère. Je me charge de toutes les démarches nécessaires. Tu as fait ta part. Le reste s'arrangera. » André accompagna sa tante jusqu'à sa porte, puis, prétextant un rendez-vous avec son ami Michael, qui devait se morfondre à l'attendre, il la quitta. Tandis que Madame Musso rentrait seule dans sa demeure vide, le caissier, emporté à toute vapeur, regardait fuir le paysage aux tons vifs et frais. Un sourire apaisé, presque joyeux, errait sur ses lèvres et s'y fixait de plus en plus à mesure que les bâtisses de la ville disparaissaient, semblaient aller s'entasser les unes sur les autres derrière lui, et que la campagne, la grande campagne riante, déroulait ses tapis d'éclatante verdure. Lorsqu'il arriva à X, le soleil baissait déjà à l'horizon. Pressé de remplir ses bronches malades de l'air vivifiant et sain, il alla s'asseoir tout de suite à l'abri d'un des superbes cerisiers. À travers le voile diaphane des fleurs, la tiédeur oblique du soleil venait jusqu'à lui, le pénétrait d'un bien-être intense, tandis qu'il songeait à l'hommage inattendu rendu à sa longue probité laborieuse. Cette bienfaisante surprise le reposait de la lutte sourde poursuivie si longtemps à son foyer contre l'hostilité active et cachée d'André. Très longtemps, en face de l'oisiveté légère et satisfaite du jeune homme, le caissier s'était tu. Le mal qui l'asservissait dès qu'il essayait de traduire en paroles ses sentiments ou ses idées le gênait vis-à-vis de ce garçon débordant de vie. André, jusqu'au jour où il s'était trouvé sur le pavé, libre de choisir entre le vagabondage de la rue ou le joug du travail, avait considéré son oncle comme un être nul, dont les opinions pouvaient aller, venir ou s'arrêter, sans qu'il y eût lieu d'attacher à d'aussi insignifiantes oscillations une importance quelconque. Mais depuis qu'il l'avait chassé de chez lui, l'oncle avait senti ployer dans sa main débile et s'y briser le dédain vide de ce jouvenceau. À partir de ce moment, André avait complètement disparu de sa vie. Il avait systématiquement fait le mort. Mais l'influence malveillante était restée sensible à son foyer. Le malade soupira. Puis, voyant le disque rouge du soleil mordu par les brumes de l'horizon, il se leva. Une fraîcheur lui tombait sur les épaules. De derrière la maison, un bruit de jeu de boules arrivait jusqu'à lui, mêlé à des tapages plus rapprochés d'enfants. Des petites voix perçantes se disputaient dans la cour. « Pas toi, va-t'en !»« Non, tu es trop petite !»« Ce n'est pas vrai, je ne suis pas du tout si petite !»« Si, si, tu es trop petite, va-t'en !» En traversant la cour, l'asthmatique aperçut la petite fille évincée, qui pleurait, appuyée au linteau d'une porte. Pleurait parce qu'on était trop petit. Dans un temps très lointain, il se souvint avoir connu ce chagrin-là. Il sourit, s'approcha de la fillette et posa sa main sèche sur la tête blonde aux longs cheveux flottants. L'enfant le regarda, déjà mutine à travers ses larmes, sourit en montrant toutes ses petites dents courtes et blanches et s'échappa en courant. Au même instant, à la fenêtre du premier étage, une mince silhouette féminine se penchait, mais elle se rejetait aussitôt en arrière, avec une exclamation de surprise, tout de suite étouffée. « Élisabeth, qu'est-ce que tu as ?» Et Madame Georges s'approcha à son tour de la fenêtre, tandis qu'Élisabeth s'en éloignait en disant « Il y a là des petites filles qui jouent. » En effet, il y avait là des petites filles qui jouaient, d'heureuses petites filles ayant devant elles un avenir comme toutes les autres petites filles. Mais ce n'était pas le jeu de ces enfants qui avait ainsi surpris Élisabeth. Elle avait eu un choc, une vive émotion dont la cause restait insaisissable. La mère pensa « Est-ce que ce jeune homme serait revenu ? Mon Dieu, est-ce qu'il serait revenu ?» Elle parcourut un moment des yeux, auprès et au loin, la verte campagne. Puis elle attacha sur sa fille un long regard douloureux, mais elle ne lui fit aucune nouvelle question. Chapitre 8. 3 heures venaient de sonner. et le soleil versait sur la terre des torrents de chaleur, tempérés par des souffles frais venant du nord. Madame Georges prit son chapeau, l'attacha d'une main tremblante, et elle sortit. Elle marchait au hasard devant elle, avec une allure de somnambule, fouillant de l'œil les massifs touffus où le mauve des lilas s'alliait aux lourdes grappes safran des cities, cherchant tout au fond des perspectives à apercevoir la robe sombre d'Élisabeth. Elle arriva ainsi à la route qui conduisait à l'étang, et elle la suivit jusqu'au pont où on apercevait le banc au pied des peupliers. Il était vide, et elle revint hâtivement sur ses pas. Mordue d'appréhension, elle murmurait « Si elle l'aime, je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. Mais si c'est seulement pour me tourmenter, moi, qu'elle joue ce jeu méchant. Oh, Élisabeth !» Jusqu'à ce moment, elle n'avait pensé nettement qu'à une chose, sauver Élisabeth d'un danger immédiat. Elle avait écouté sans s'indigner les offres entortillées de Madame Musso. Elle l'avait laissé échafauder devant elle un horrible contrat où sa part à elle était de payer de son argent l'homme qui consentirait à donner un nom à Élisabeth. Payer ce vil voleur de sentiments qui avait spéculé sur l'état d'âme troublé d'une enfant. Épouvantée de la menace qu'elle sentait planer, imminente sur la tête d'Élisabeth, elle n'avait opposé à la proposition de la tante d'André qu'un non, sec, morne, immuable, sans s'apercevoir qu'elle se laissait prendre son secret, et que cette femme, qui avait si bien soupçonné sa honte, en avait maintenant acquis la certitude. Elle pensa avec effroi à l'attitude glaciale d'Élisabeth, si elle se voyait contrainte de lui confesser l'entrevue, de lui relater mot à mot l'entretien. En ce moment, elle aperçut, à l'ombre d'un arbre, la silhouette chétive de l'asthmatique, et elle se détourna de son chemin pour passer inaperçue derrière lui. D'ordinaire, chaque fois qu'elle le rencontrait, elle accostait le malade, dont l'isolement la pitoyait. Elle le laissait parler, le questionnait sur son mal, et peu à peu, de cette liaison banale, était née une entente peu verbeuse, mais réelle, comme si, entre ces deux êtres que le hasard rapprochait pour quelques semaines, existait un lien secret qu'il devinait confusément, lien résultant d'une même déception muette en face de faits irréparables. En proie à une anxiété impossible à dissimuler, Madame Georges n'avait pas le courage de l'aborder ce jour-là. Malgré ses précautions, cependant, Monsieur Musso saisit le bruit léger des pas sur l'herbe. Il se retourna et appela la promeneuse. « Je voudrais vous parler, s'il vous plaît, deux mots. » Elle s'excusa de loin sans approcher, tâchant de dissimuler le tremblement de sa voix. « Je cherche Élisabeth. » Monsieur Musso indiqua de la main un bosquet de verdure où, à travers le feuillage nouveau, on apercevait le noir d'une robe de deuil, et il dit « Mademoiselle Georges est là !» Voyant la mère hésiter, réfléchir, il insista. « Oh, deux mots !» Madame Georges domina son agitation. Elle se décida à approcher. Il ne fallait pas que ce malade qu'elle avait accoutumé à sa sympathie pût douter d'elle, la croire capricieuse, fantasque. Mais quand elle fut près de lui, elle ne trouva rien à lui dire, pas un mot. Son cœur et son esprit étaient ailleurs. Il ne lui dictait aucune parole. Elle resta devant lui, attendant qu'il s'expliquât. Il la regarda, un peu surpris d'une attitude inaccoutumée, puis il dit rapidement « Je voudrais seulement vous avertir, oui, je sais que vous avez eu une visite aujourd'hui. » André n'est pas du tout ce qu'il faut à... Non, non, il faut empêcher cela à tout prix. » Une rougeur brûlante inonda les joues de la mère, tandis que l'aiguillon de sa honte lui labourait le cœur à l'ancienne place. Cet homme, lui aussi, sans doute, possédait son secret. Elle resta immobile, sans trouver une syllabe à lui répondre. Étonné, il fixa un moment ses yeux de malade, brillants et perspicaces, sur la figure incendiée, puis baissant la voix, il ajouta « Oh, une misérable, misérable calomnie !» Elle saisit sa main, la serra fortement dans les siennes, s'enfuit. Un moment, elle courut devant elle, au hasard, par les sentiers ombreux, avec le désir de marcher droit devant elle, jusqu'à ce que la fatigue la terrassa, l'anéantit. Au bout de quelques minutes, cependant, elle ralentit le pas. Puis elle rebroussa chemin et prit rapidement la direction du bosquet où la robe noire d'Élisabeth tachait la verdure. Elle alla s'asseoir à côté de sa fille et elle lui dit, d'une voix contenue, basse mais ferme, « Si cela ne te contrarie pas, Élisabeth, je voudrais rentrer en ville prochainement. » Du bout de son ombrelle noire, la jeune fille dessinait sur le sol des lignes, des angles et des ronds. Elle demanda sans relever la tête « Gertrude te rappelle ?» Madame Georges tressaillit. La question inattendue pouvait contenir un sous-entendu, blessant, agressif. Cependant, elle n'avait aucune raison plausible de prêter dans ce moment à Élisabeth une intention cruelle. Elle attendit quelques secondes avant de continuer. Elle ne voulait pas que le son de sa voix pût rien trahir de sa fugitive souffrance. Elle dit enfin tranquillement « Non, mais tu es mieux portante. Tu as l'air mieux que je ne t'ai jamais vue. Et j'aurai des affaires, ou plutôt une affaire, à terminer en ville. » En même temps, elle tira de sa poche une lettre qu'elle ouvrit. C'était en effet une dernière liquidation à clôturer avec le notaire des grands-parents d'Élisabeth. Quelques-unes des transactions légales avaient été compliquées par la position irrégulière de Madame Georges. Cependant, le papier soumis à Élisabeth ne disait rien qui fût de nature à blesser son ombrageuse fierté. Elle jeta sur la lettre un regard indifférent, sans chercher à la lire, et elle dit froidement « Puisque c'est nécessaire, c'est assez. À quoi bon me consulter ?» Au bout d'un instant, elle ajouta sans cesser de rayer le sable du bout de son ombrelle. « Je ne sais pas si je me suis trompée. J'ai cru voir passer Madame Musso tout à l'heure. » « En effet, » dit Madame Georges simplement, « elle est venue voir son mari. C'est la première fois depuis qu'il est ici. C'est bien naturel, ne trouves-tu pas ?» Il y eut un silence. Élisabeth reprit. « Tu ne l'as pas vue ? Elle a passé une demi-heure avec moi. Tu ne l'aimes pas. Je ne t'ai pas fait appeler. » Il y eut un nouveau silence. Élisabeth continuait à faire des lignes, des croix et des ronds sur le sable, et elle semblait tout à fait absorbée dans le dessin de ses hiéroglyphes. « Pourquoi ? » dit-elle enfin sourdement. « Ne me dis-tu jamais la vérité ? Jamais !»« En quoi est-ce que je ne te dis pas la vérité ?» demanda la mère vivement. Mais elle regretta aussitôt d'avoir cédé à une première impulsion en posant une vaine question où Élisabeth ne verrait qu'une échappatoire. Cependant, offensée du ton et du reproche injurieux, elle poursuivit. « Tu veux savoir si Madame Musso m'a parlé de toi ? C'est cela que tu veux savoir, n'est-ce pas ?» Les joues d'Élisabeth s'enflammèrent. Elle cessa de tourmenter le sable du chemin. Elle posa sur sa mère ses grands yeux noirs, froids. « Pourquoi ne pas le dire tout de suite ? Tu vois bien que tu ne me dis jamais la vérité. » « Toi aussi, Élisabeth, » articula Madame Georges avec effort. « Dis-moi la vérité. Ce jeune homme, qui est encore presque un inconnu pour nous, est-il possible que tu l'aimes ou joues-tu ce rôle pour me tourmenter, moi ? Aujourd'hui, je puis croire de toi une chose aussi cruelle, aussi... Qu'importe, interrompit Élisabeth, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Il me donnera un nom. L'intrépide courage de la mère eut une défaillance. Élisabeth lui apparaissait comme une créature sans âme, dépourvue de cet attribut mystérieux qui crée entre les hommes l'entente silencieuse, où les mères et les enfants sont attachés les uns aux autres par d'indissolubles liens. Dans les différents multiples que la vie peut faire naître, ces liens finissent toujours par les rapprocher. Elle resta un moment absolument écrasée sous l'outrage, puis elle se ressaisit. La préoccupation que trahissait l'argument sorti sans effort des lèvres d'Élisabeth ne pouvait pas être le premier écho d'un sentiment vrai et profond. Non, c'était impossible. Le cœur de son enfant était donc libre. Il y avait encore quelque espoir de la sauver. Elle reprit lentement, très calme. « Tu ne connais pas le passé de ce jeune homme, mais moi, je me suis informée. Pendant des années. » « T'a-t-il dit cela ?»« Sa tante l'a nourri de son propre travail. » »« Te permettre, pour satisfaire une fantaisie de ton esprit malade, de te vouer à un malheur certain, je ne peux pas. Je t'aime trop. Je t'aime trop, mon enfant, pour te livrer à de pareilles expériences. » J'ai dit non.
Tu as dit non ?
S'écria Élisabeth, frémissante de surprise.
Sans me consulter, tu as dit non. Mais moi, je dis oui.
Et sa pâleur s'étendit partout, jusqu'à ses lèvres qui devinrent livides.
Mon Dieu, Élisabeth !
S'écria la mère suffoquée.
Est-ce que tu l'aimes ? Mais dis-le donc alors, dis-le.
Élisabeth ne répondit pas. Au bout d'un instant de réflexion, Madame Georges reprit, décidée.
« Eh bien, non, quoi qu'il en soit, si même tu l'aimes, je ne puis pas, je ne veux pas aider cet homme à te tromper. Malheureux enfant, il a un but en demandant ta main, un but que je n'ose presque pas t'avouer. Ce n'est pas ta personne qui l'attire, c'est autre chose, c'est... »
Élisabeth se redressa vivement, l'œil provoquant. Les paroles de sa mère venaient de la piquer à une place très sensible et toujours irritée. Distinctement, elle entendait vibrer à ses oreilles la remarque étouffée d'André, lorsque, en face des cerisiers, au moment où il venait de la tenir dans ses bras, il lui avait dit « Que votre mère est encore belle !» Ces mots jetés sur son intense émotion l'avait brusquement éteinte. Ils avaient pénétré ce jour-là jusqu'à ses moelles.
« Si ce n'est pas moi, » dit-elle très froidement, « c'est quelqu'un d'autre qui l'attire. C'est cela que tu veux dire, n'est-ce pas ?»
Sa mère lui saisit le poignet et le serra entre ses doigts nerveux à le briser.
« Tais-toi ! Mais tais-toi donc !»
Un vertige la prenait. Elle resta un instant hésitante, sans savoir à quelle partie s'arrêter. Sentant le fatigant contrôle que sa volonté et sa tendresse pour Élisabeth exerçaient depuis si longtemps sur la libre expression de ses sentiments, lui échappait pour tout de bon. Ne trouvant plus le courage de préparer davantage Élisabeth au coup qu'elle allait lui porter, elle dit enfin, les dents serrées. « Ce que ce jeune homme veut de toi, c'est le prix du nom qu'il t'offre. Il en a fixé jusqu'au chiffre. Comprends-tu maintenant que je ne puisse pas ?»«
Ce n'est pas vrai !» protesta la jeune fille indignée. « Tu ne dis jamais la vérité. Ce n'est pas vrai. Oh, je comprends très bien. Cela te semble impossible qu'à côté de toi, André m'ait aperçu. Tu ne peux pas le croire. Et alors, tu cherches, tu inventes, tu... »
Mais sa mère l'interrompit sourdement. « C'est assez, Élisabeth. Voilà la troisième fois aujourd'hui que tu me dis des choses que je ne puis pas entendre. Quels qu'aient été mes torts, tu n'as pas le droit de me le dire de cette façon. Non, je ne veux plus les entendre. Va, tu es libre de faire tout ce que tu voudras. Tu es entièrement libre de tes actions. Mais va-t'en, va-t'en, laisse-moi. » Sans faire une seule objection, sans formuler un mot d'excuse, rigide, Élisabeth se leva, et elle s'en alla rapidement à travers les charmilles.
tant que sa robe noire fut visible au milieu de la verdure et des fleurs, disparaissant quelques secondes derrière l'épaisseur des fourrés et reparaissant aux coupures où des buissons bas ornaient les plates-bandes, Madame Georges la suivit des yeux. Mais quand le point sombre et mouvant eut disparu pour tout de bon, qu'on ne vit plus rien dans les allées désertes, elle cacha sa tête dans ses mains. Élisabeth, Élisabeth. Et elle resta abîmée dans son désespoir, torturée en même temps d'un pressant souci d'esprit, ne sachant à quel moyen s'arrêter pour contraindre l'intraitable orgueil d'Élisabeth à accepter ses conseils, le fruit de sa longue expérience amère des choses. Elle ne découvrait à sa portée aucun parti possible à prendre pour préserver sa malheureuse enfant du châtiment que le passé de sa mère coupable allait faire retomber sur sa tête. Tout à coup, un bruit de pas qui se rapprochait d'elle rapidement l'attira de sa rêverie. Elle eut la certitude brusque de voir devant elle Élisabeth. Élisabeth, revenue à sa véritable nature, repentante, vaincue par un de ces mouvements de regret spontanés qu'autrefois elle avait vus si souvent. Mais ce n'était pas Élisabeth qu'elle vit devant elle. Son espérance trompée lui retomba lourdement sur le cœur, et elle posa sur le nouveau venu des yeux vides et fixes qui n'avaient pas l'air de le voir. En face de ce visage blême, étalant sans l'expliquer une absolue désolation, l'asthmatique resta un moment paralysé de stupeur, tandis que le soupçon de la vérité lui entrait dans le cœur comme une pointe aiguë. Il recula d'un pas. « Oh ! Oh !» Elle le regarda droit dans les yeux, sans avoir le courage de lui mentir. Oh ! Elle comprenait si bien le sens de cette exclamation étouffée. Mais elle ne pouvait pas mentir. Il hésita quelques secondes, navré, sans trouver un mot à dire à cette femme désespérée, qui, du sommet où il l'avait placée, se précipitait brusquement au niveau d'une créature, d'une femme tombée, sans excuse. Elle balbutia « Je voudrais être seule », et d'un geste de la main, elle l'éloigna. Comme Élisabeth l'avait fait tout à l'heure, il s'en alla rapidement, sans se retourner. Il faisait tout à fait nuit lorsque Madame Georges rentra chez elle. Depuis longtemps, tous les bruits de la campagne s'étaient endormis, et elle se dirigea à tâtons à travers l'obscurité. La maison était plongée dans le silence. À la fenêtre d'Élisabeth, cependant, la lumière brillait encore, et on voyait à l'intérieur l'ombre svelte de la jeune fille passer sur les rideaux blancs, aller et venir régulièrement dans une lente promenade. Désormais, le parti de Madame Georges était pris. Elle avait pendant de longues heures envisagé tantôt la résistance ouverte à la volonté d'Élisabeth, tantôt le travail patient de la persuasion. Mais ni l'un ni l'autre de ces moyens n'avait entre ses mains une chance quelconque de succès. Quoi qu'il pût arriver plus tard, elle ne verrait pas se greffer sur l'ancienne rancune d'Élisabeth le rejeton vivace d'une nouvelle dissension. Non, elle ne pouvait pas endurer ce supplice-là plus longtemps. Non. Toutes les concessions, plutôt que revivre encore une fois les minutes de cette journée, toutes les abdications, plutôt qu'éterniser l'affreux martyr de rester vis-à-vis de sa fille avec une nouvelle cause de discorde dissolvante. Il lui semblait qu'elle en avait fini avec toutes ses luttes, toutes ses indécisions, avec ce fatigant et trompeur retour d'espérance, et qu'elle prenait pied, enfin, sur un morne désert où, au moins, elle serait à l'abri. Chapitre 9. À quelques semaines de là, un soir, en rentrant de son travail, André trouva sur sa table une lettre qui l'attendait. Il courut à la signature, et en lisant le nom d'Élisabeth, tout de suite une inquiétude le prit. C'était la première lettre qu'il recevait de sa fiancée. Il l'avait vue la veille. Que pouvait-elle avoir à lui dire de s'y presser? Depuis que Madame Georges avait accepté ses conditions telles qu'il les lui avait faites, sans même les discuter, le jeune homme, admis dans l'intimité d'Élisabeth, éprouvait auprès d'elle une singulière incertitude d'esprit. La jeune fille se montrait capricieuse, elle avait avec lui d'étranges fluctuations d'attitude. Il lui semblait parfois qu'elle et lui jouaient le même jeu, qu'ils n'étaient l'un pour l'autre qu'un moyen insignifiant pour atteindre un but caché. Toute expansion simple et naturelle semblait impossible à Élisabeth, comme si son âme orgueilleuse, blessée à vif, mutilée par la honte de sa naissance, avait perdu à jamais le pouvoir de la spontanéité et de la franchise. Pourtant, au milieu d'incessantes oscillations d'humeur, André croyait parfois distinguer chez sa fiancée la chaleur pénétrante qui, là-bas, en face des cerisiers, dans le cadre frais d'un beau jour de mai, l'avait, pendant un instant très court, surpris et grisé. Dans ces moments-là, Élisabeth oubliait le doute qui la rongeait. Sa figure expressive perdait sa contraction habituelle. Elle s'illuminait tout à coup d'une clarté intérieure, très intense, que l'œil ouvert de sa mère interprétait douloureusement. Déchiffrant sans peine l'écriture fine mais nette, André lut. « André, il y a autour de moi, depuis que je suis au monde, quelque chose d'excessif et d'anormal, dont toute petite, je souffrais inconsciemment. Comment vous expliquer toutes ces choses qui sont restées obscures même pour moi ? Plus tard, à la suite de différentes circonstances qu'il est inutile de vous expliquer aujourd'hui, le soupçon et la défiance ont été semés dans mon âme, et peu à peu, ils y ont poussé de si fortes racines qu'avant d'avoir appris à penser, je doutais de tout ce qui m'entourait. Je doutais de maman longtemps avant de rien savoir de la vie. Je vivais dans une atmosphère de soupçons qui m'étouffait. Aujourd'hui, c'est de vous que je doute. Pardonnez-moi, mon ami. Est-ce que je vais vous offenser, mon Dieu? Il y a des choses que je ne peux pas, que je ne veux pas vous dire, mais je doute. Parfois, il me semble que je n'ai pas le droit d'être heureuse comme les autres, moi, et que ce mirage va s'évanouir sans que je puisse l'atteindre. Oh, s'il est vraiment possible que vous m'aimiez, délivrez-moi de ce souci qui est une insulte pour vous et pour moi. Mettez-vous à ma place pour me bien comprendre, à ma place dans les circonstances particulières où j'ai vécu. Voici ce que je vous demande à deux genoux, André. N'acceptez rien de maman, non, rien, rien, si même elle vous offre une dot. Oh, elle vous l'offrira, mais moi, je ne veux rien devoir qu'à vous. Chaque fois que mon regard croise celui de maman, j'y lis la même pensée, toujours la même. J'ai besoin d'être rassurée, et je viens à vous. Nous ne sommes jamais seuls, vous ne pouvez pas me parler librement, mais écrivez-moi. Écrivez dès que vous aurez lu ces lignes et pardonnez à votre Élisabeth. André lut plusieurs fois attentivement cette missive un peu froide, aux phrases disjointes, où il discernait clairement deux choses. D'abord, une mésintelligence entre Élisabeth et sa mère, différente et beaucoup plus profonde que celle qu'avaient fait naître ses prétentions sur la jeune fille. Et ensuite, chez Élisabeth, un éveil de défiance inquiétant. Il entrevit confusément quelque chose du drame intime où le hasard lui avait offert un rôle à sa taille, pris sur mesure, et il mordilla un moment sa moustache, rêveur. Pourquoi sa future belle-mère, toujours glaciale pour lui, avait-elle caché à sa fille leurs arrangements si naturels? Elle avait eu sans doute, pour se décider à cette clandestine transaction, de sérieuses raisons. Il ne fallait pas risquer, en contrariant son plan, de faire surgir de dangereuses complications. Il suivrait la route qu'elle lui indiquait. Ce qui importait pour le moment, c'était de rassurer Élisabeth. Il saisit sa plume, écrivit rapidement quelques lignes, et il alla lui-même les jeter à la poste. Le lendemain, ce fut Madame Georges qui remit à Élisabeth la lettre d'André. Elle la lui tendit sans un mot. La jeune fille la glissa dans sa poche et alla la lire dans sa chambre. Elle n'en dit rien de toute la journée. Seulement le soir, en s'en allant, elle la posa tout ouverte sur la table et l'y laissa. Madame Georges, comprenant que de la part d'Élisabeth cette négligence devait cacher une intention, prit le pli et parcourut les lignes menteuses. Le lendemain, dès qu'Élisabeth parut, elle lui indiqua sur la table la feuille de papier à la place où elle l'avait laissée la veille, et elle lui dit « Cette lettre est à toi, je crois, tu l'auras oubliée. »« Oh !» dit Élisabeth froidement, « tu pouvais la lire. » Je l'ai lue. Et elle eut un élan de pitié pour l'enfant de sa chair et de son sang, qui repoussait si follement sa tendresse. Un instant, la vérité trembla de nouveau sur ses lèvres, mais elle la refoula. À quoi bon? À quoi bon lutter contre une obstination aveugle, heurter de front une résistance qu'elle savait indomptable? À quoi bon s'user à un travail qui dépassait ses forces? Il n'y aurait qu'un moyen de convaincre Élisabeth, un seul. Annuler le contrat passé avec André et la jeter à une explication personnelle avec son fiancé. Mais ce serait la plonger dans un désespoir sans issue et plus agressif que jamais. Affolée par toutes sortes de pressions intérieures et extérieures, pour le moment, Élisabeth aimait ce misérable calculateur. Elle ne pardonnerait pas à sa mère de lui ôter le moyen d'avoir un nom à elle, en suivant l'impulsion de son cœur. Il faudrait recommencer vis-à-vis l'une de l'autre toute la longue suite des jours mornes, refaire le long chemin monotone. Elle éprouvait une telle lassitude intérieure que cette perspective la dépouillait de son reste d'énergie. Elle se sentait désarmée, sans volonté, incapable de reprendre à courte échéance l'impitoyable lutte. Élisabeth aurait la destinée qu'elle avait choisie.